Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez La Librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Paris. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel entretien de la librairie des étudiants. Bonjour Gaëlle Nohan.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de cette invitation.
Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour votre nouveau roman, L'Homme sous l'orage. C'est le titre donc, de ce nouveau roman publié aux éditions de l'Iconoclaste dans cette rentrée littéraire d'automne. Nous sommes en 1917, durant la Première Guerre mondiale, au domaine Lespard. Isor tient sa maison pendant que son mari et son fils sont au front. Et un soir, Théodore, un jeune peintre déserteur, trouve refuge au domaine, mais Isor le chasse. C'est trop de déshonneur que de recevoir un homme qui ne tient pas ses engagements sous les drapeaux. Se renvoie du domaine, Rosalie, la fille d'Isor, l'a vue, et lorsque l'orage s'abat durant la nuit, elle décide de le cacher dans le domaine. Dès lors, le jeune homme devra se faire tout petit dans cet espace pour ne pas montrer sa présence, car les risques pour les déserteurs sont très grands. La dernière fois que nous nous étions rencontrés, Gaëlle Nohan, c'était pour votre précédent roman, Le Bureau d'éclaircissement des destins, qui revenait justement sur ses destins brisés par la Seconde Guerre mondiale. Qu'ont-ils de romanesque, ces destins brisés par les guerres mondiales ?
Ce que je trouve romanesque, finalement, c'est la manière dont les êtres humains résistent, comme ils peuvent, à ces grandes vagues de l'histoire. À ces moments de crise aussi, les guerres, comme toutes les grandes crises, révèlent aux hommes qui ils sont, de quel bois ils sont faits, aux hommes et aux femmes. Et ça, c'est intéressant sur le plan romanesque. J'aime aussi, même si ce sont des événements traumatisants, il y a aussi, ils sont porteurs d'opportunités et ils sont des catalyseurs de changements intimes. Cette contradiction, cette ambiguïté, cette complexité m'intéresse.
Tout du long de votre roman, il y a quelque chose de marquant, le motif de l'orage, il est d'ailleurs dans votre titre. L'orage revient de manière assez récurrente. Qu'est-ce qu'il a ? Comment ce motif vous a-t-il servi pour l'écriture ?
Il s'agit, à travers cet orage, j'interroge l'intensité et le désir de l'intensité. Un des personnages principaux de cette histoire, Théodore, est peintre. Avant la guerre, il n'était que ça, un peintre complètement passionné, un peintre d'avant-garde. Et ces jeunes peintres d'avant-garde avaient en commun de rechercher une forme d'intensité de la vie dans leur art, de la rechercher partout, l'intensité, dans la vie et dans l'art. Et donc, certains ont même désiré la guerre comme on désire l'apocalypse, comme on désire faire ses preuves, à l'épreuve du feu, en fait, vivre ça. Bon, après, ils ont été malheureusement dessillés, désillusionnés. Dès qu'ils ont commencé à la faire, la guerre, ils ont compris qu'elle allait leur prendre des choses et que ça n'allait pas du tout être ce qu'ils avaient imaginé. Mais en tout cas, ils l'ont désiré. Donc, il y avait cet orage-là, l'orage de la guerre. Et puis il y a l'orage des émotions et des sentiments. Là encore, c'est un peintre de la couleur, et la couleur, c'est de l'émotion. Donc lui, ce qui l'intéresse, ce sont ses émotions en peinture. S'il vous peint, par exemple, il cherche à restituer l'émotion que vous lui avez inspirée, plutôt qu'un portrait ressemblant. Et donc, ce sont ces émotions-là. Et là, c'est aussi l'orage de la vie et du désir, qui n'est pas éteint parce que c'est la guerre. Au contraire, il est peut-être encore exacerbé parce que la mort est partout. Donc ça réveille l'envie de vivre aussi.
Vous parliez des sentiments. Est-ce que, de par certains aspects, votre roman pourrait être un roman d'apprentissage ?
Alors, pour ce qui est de la jeune fille, oui.
Pour Rosalie ?
Absolument. Voilà. Pour Rosalie, c'est vraiment un roman initiatique parce qu'au début du livre, elle ne sait pas du tout qui elle est. Elle est comme un brouillon de ce qu'elle va être. C'est aussi le fruit de son éducation, hein, à la fois bourgeoise et religieuse, très culpabilisante, qui l'a tenue même éloignée, d'une part tenue éloignée de la réalité de la vie, mais aussi tenue éloignée même de son propre corps. Elle est étrangère à son corps, elle ne se connaît pas, et ce qui va se passer dès l'instant où elle décide de cacher cet homme, cette impulsion la met hors les clous, et dans cet hors les clous, elle va découvrir de quel bois elle est faite, vraiment.
Il y a aussi un lieu, donc où se déroule votre roman, parce qu'on est, il parle de la guerre effectivement, mais on est quand même dans une espèce de huis clos, un endroit précis, le domaine Lespard. En quoi ce huis clos voulu est-il important à vos yeux pour cette histoire ?
Alors pour cette histoire, j'avais vraiment envie de me mettre à distance géographique de la guerre pour observer, pour parler de la guerre du point de vue presque de la coulisse. Le déserteur, c'est pas un personnage auquel on s'intéresse souvent parce qu'on veut pas entendre son point de vue précisément. Et puis il y a le point de vue des femmes, trois femmes dans cette histoire, et c'est un peu la guerre des femmes en quelque sorte. Qu'est-ce qui se passe à l'arrière? Qu'est-ce qui se passe là? Ben, on voit justement que même là, dans un lieu qui est protégé, en tout cas qui est loin de la guerre, eh bien la guerre grignote. Elle grignote les pensées, elle grignote la vie concrète des gens, des habitants, et puis leurs rêves. Et... Donc c'est vraiment cette ombre de la guerre, et ça fait écho pour moi à ce qu'on vit en ce moment, nous, en Europe. La guerre est revenue en Europe, alors évidemment elle est près de chez nous en vrai, mais on ne la vit pas du tout comme ça. On a l'impression d'être quand même encore à distance et que c'est pas notre monde, la guerre, alors qu'elle est vraiment tout près. Et moi, je crois qu'il n'y a pas un jour depuis le début de cette guerre en Ukraine où je ne pense pas à cette guerre. Depuis, on a eu aussi la guerre à Gaza. Enfin, ces guerres-là, ce fracas de la guerre est revenu nous habiter, nous hanter, il est revenu dans nos vies. Mais il ne nous concerne pas encore tout à fait directement. Donc on est dans la situation un peu des personnages de mon roman.
Est-ce qu'il y a une forme de naïveté de ce fait que la guerre soit si loin, à la fois pour vos personnages, mais aussi pour nous?
Je pense qu'en tout cas, il peut y avoir une place pour le déni. Il y a un historien, un grand historien de la Première Guerre mondiale, Stéphane Audouin-Rousseau, qui dit que nous, en Europe, on est dans le déni de la guerre, parce qu'on est déjà dans la guerre et qu'on ne veut pas le voir en face. C'est son point de vue d'historien de la Grande Guerre. Mais je trouve ça intéressant de poser cette question. Et là, nous, on peut être dans cette forme de déni. Les gens de mon roman, ils ont l'illusion que leur vie, ils peuvent encore la sauver, que peut-être elle va leur revenir intacte après la guerre, qu'il faut juste faire le gros dos, serrer un peu les dents, être patient, peut-être sacrifier des choses et puis tout va revenir. C'est un peu ce qu'on s'est dit, nous, au moment du Covid à petite échelle. On a pensé que tout allait revenir comme avant. Et puis non, on voit bien qu'il y a eu des changements énormes, des changements profonds dans la société. Il y a plein de gens qu'on a perdus à ce moment-là. Donc, qu'on a perdu, non pas qu'ils sont morts, mais qu'on a perdu psychiquement. Oui. On a perdu le lien avec eux. On ne sait plus leur parler. Donc, les ravages de cette guerre sont irréversibles et ces personnages ont petit à petit comprennent que leur vie ne reviendra pas identique parce que eux-mêmes aussi ont changé entre-temps.
Vous avez parlé des femmes, trois femmes effectivement, qui peuplent ce roman, qui ont chacune des personnages bien trempés, on peut le dire, que ce soit Isor, donc la mère, Rosalie, la fille, et puis aussi Marthe, qui est la bonne dans cette maison, qui a un rôle assez central, et en tant que lecteur, on s'énerve facilement dès qu'on voit Marthe arriver, parce qu'on se dit « qu'est-ce qui va se passer ?» Ça, je laisserai bien sûr le soin de ceux qui nous écoutent de le découvrir pourquoi en lisant votre roman. Mais j'aimerais m'arrêter aussi sur le personnage d'Isor, et son engagement, notamment, auprès de ce qu'on appelle l'Union des Femmes de France, une union pour venir en aide aux blessés. Avec ce personnage, est-ce que c'est aussi une façon pour vous de rendre hommage à toutes ces femmes qui, pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde, ont soudainement eu un rôle beaucoup plus important dans la société?
Bien sûr. Je trouve ça intéressant, en particulier avec la Première Guerre mondiale, parce que ce sont les femmes qui ont tenu le pays pendant des années. Et que quand les survivants de cette guerre sont revenus du front, on a dit aux femmes « Merci, mesdames, rentrez chez vous ». Et cette chose-là est très, très dure. Pour, je pense, la majorité de ces femmes, puisque elles ont découvert plein de choses sur elles-mêmes pendant ces années. Elles ont découvert qu'elles pouvaient occuper des rôles d'hommes, justement, qu'elles pouvaient apprendre du jour au lendemain un métier, faire tourner une usine, faire tourner une ferme, un domaine viticole dans mon roman. Et Et donc, ça les a changés à jamais. De découvrir ça, on imagine qu'il y a eu de la difficulté, mais aussi de la fierté d'arriver à le faire. Et puis que ça a changé même leur rapport à leur corps. D'ailleurs, la lingerie, par exemple, a été, tout l'habillement est changé à partir de la Première Guerre mondiale, parce que ces femmes, elles ne pouvaient plus s'habiller comme avant, puisqu'il fallait des vêtements qui leur laissent une liberté de mouvement, par exemple. Une fois qu'on a travaillé, on apprend. Donc elles ont commencé à porter des pantalons, elles ont arrêté le corset, c'était plus possible, elles ne voulaient plus, etc. Bon. Tout ça pour qu'on leur dise « reprenez vos places ». Ben, c'est un peu comme si on essayait de rentrer dans des vêtements trop petits. Vous avez grandi, et donc c'est plus possible. Mais après, les hommes, pour eux, retrouvaient aussi des femmes très changées. Et pour eux, c'était aussi, on imagine, très douloureux, parce qu'ils avaient l'impression qu'on les avait remplacées aussi. Alors qu'ils avaient déjà vécu des choses très dures. Donc, ils revenaient avec ces traumas absolument indicibles. Et puis, il y avait ces femmes étrangères, un peu, qui leur étaient devenues étrangères.
Oui, ce qui est justement très paradoxal, parce que chacun, un homme, enfin là, en l'occurrence, vos personnages principaux, évoluent dans la guerre, mais à des périodes différentes. C'est-à-dire qu'Isor, depuis son domaine, et son mari au front, donc en fait, ce sont deux personnes qui ont changé, mais qui ne se comprennent plus.
Exactement.
Et qui ont changé en même temps.
Et ce qui est ironique dans le cas de ce couple, c'est que dans un premier temps, la guerre les rapproche parce qu'ils s'écrivent et qu'ils s'écrivent des choses qui ne se sont jamais dites. Mmh. Parce que leur éducation est vraiment une éducation qui est une éducation à ne pas s'épancher. On ne dit pas à quelqu'un qu'on l'aime, on ne lui montre pas qu'on l'aime. On est très peu démonstratif. Et là, comme c'est le seul lien, c'est les lettres, à cette époque, il y a plein de gens qui ont commencé à écrire pour la première fois aux gens qu'ils aimaient, parce que s'ils n'écrivaient pas, ben, il n'y avait plus de lien du tout. Donc, c'est devenu un espace de la correspondance où on pouvait dire le manque, on pouvait faire perdurer le lien, on pouvait dire le désir aussi. Certains ont parlé de désir pour la première fois. Donc, Isor et Roland, son mari, ça les rapproche dans un premier temps. Ça donne l'idée qu'il pourrait exister une autre intimité entre eux, qu'ils pourraient oser ça. Et puis, en fait, dans un deuxième temps, la guerre, elle les sépare parce qu'ils sont trop profondément changés par elle. Et qu'ils ne peuvent pas arriver à se comprendre parce que chacun essaie de retrouver celui qu'il a quitté.
Oui.
Or, il n'est plus là.
Vous parlez justement de ce côté très pudique à ne pas s'épancher sur ses sentiments. Il y en a un autre aussi de personnage qui met du temps avant de parler. Je pense notamment à Théodore, qui met beaucoup de temps à se confier à Roselle et on découvre un homme quelque peu taiseux, qui ne parle pas tant de sa propre vie, parce qu'on comprend qu'il est marqué par la guerre, parce qu'il a pu vivre à Verdun, notamment. Il lui reste alors l'art, la peinture, le dessin, qu'il aime exercer, un art qui le canalise aussi devant ses démons et les traumatismes qui peuvent lui rester depuis la guerre. L'art est-il un moyen de se sauver de soi-même ?
Moi, je pense que l'art fait partie des moyens de sauver en soi l'humanité. Parce que l'art est pour moi indissociable de la pulsion de vie. C'est vraiment le cœur de l'être. Et c'est un cœur de l'être. Ça part du cœur d'un artiste, du plus profond de lui, pour aller créer des liens, pour partager quelque chose. Donc, relier des gens autour de choses qui sont profondes. Donc, d'abord, c'est une vision du monde. On choisit. Que ce soit, moi je me suis intéressée dans mes livres à la photographie, à la poésie, à la littérature et maintenant à la peinture. On choisit ce qu'on veut montrer, on choisit ce qu'on veut exprimer quand même dans l'art. Donc ça c'est une chose importante et d'ailleurs ces artistes peintres qui ont fait cette guerre, il y en a eu beaucoup, la grande, grande majorité d'entre eux, ils ont choisi de ne pas peindre la guerre. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est comme si cette guerre qui leur avait déjà pris beaucoup de choses, ils avaient voulu la tenir à distance au moins de ça. Ça, c'est comme un cœur battant qu'on essaye de préserver. Pour autant, même ceux qui n'ont pas peint la guerre a changé leur peinture, puisqu'elle est venue changer leur psyché. Elle leur a laissé des blessures, donc des blessures invisibles. Donc il y a tout ça dans Théodore, et quand il arrive dans cette maison, il est incapable de peindre. La guerre l'a coupé de ses émotions, ce qui était sans doute mieux quand on était au front, d'être dissocié. On observe d'ailleurs cette dissociation dans mon précédent livre, je m'intéressais aux déportés, c'est la même dissociation. Les déportés, quand ils sont rentrés de la guerre, des camps, ils ont eu un moment où ils avaient l'impression que plus rien leur faisait du mal. Donc c'est le moment où en général ils ont recréé des liens, ils avaient envie de vivre, ils sont mariés, ils ont eu des enfants. Et puis peu à peu, les émotions enfouies sont revenues et avec elles le trauma. Donc c'est un petit peu le cas pour Théodore. Il revient à la vie dans cet endroit qui n'est pas tout à fait la paix encore. Hein. Il est encore en guerre au fond de lui, en guerre avec lui-même. Et petit à petit, les émotions reviennent et avec elles aussi les fantômes de la guerre.
Quel a été votre travail de fond pour ce roman sur la Première Guerre mondiale ?
Alors, sur la Première Guerre mondiale, parce que j'avais déjà travaillé sur ce conflit pour mon premier roman, j'avais beaucoup travaillé sur les récits de soldats, notamment les récits de soldats français, etc. Là, j'ai travaillé vraiment autrement. J'ai essayé de travailler la Première Guerre mondiale comme la Première Guerre moderne, ce qu'elle est. Première guerre de matériel. Ce qui m'intéressait, c'était pas de raconter la Première Guerre mondiale. Plein de gens l'ont fait avant moi et qui l'ont faite, donc ça n'a pas d'intérêt de le refaire. Mais en revanche, c'était à travers cette guerre d'interroger ce qu'on vit dans la guerre, ce que vit un corps, un esprit dans la guerre. Et quand je travaillais là-dessus pour la guerre de 14, je travaillais aussi sur le corps des soldats ukrainiens. Je travaillais aussi sur ce qu'on peut ressentir quand on est bombardé, par exemple à Gaza aujourd'hui. C'était pour moi un pas de côté pour observer la guerre aujourd'hui revenir, encore une fois. Et puis, par exemple, observer dans les récits d'historiens assez récents sur la Première Guerre mondiale, on s'interroge par exemple sur le lien du soldat à son arme. On s'interroge sur le fait que jusqu'à la Première Guerre mondiale, un soldat combat debout ou à cheval, et que tout à coup, là, dans cette guerre, il commence à se battre en rampant.
Dans
les tranchées. Donc, on l'a fait dans des postures qui ne sont pas des postures viriles. Alors qu'on vous a appris, quand vous êtes un garçon, même sur les bancs de l'école, que la guerre, c'est l'épreuve suprême de la virilité d'un homme, de son courage, et qu'un jour, toi, petit garçon, tu dois désirer aller faire tes preuves sur un champ de bataille et montrer que tu es capable de défendre ta patrie, les gens que tu aimes, etc. Or, il découvre que la guerre, c'est surtout de l'impuissance. C'est surtout se sentir comme une proie cernée par des projectiles qui sont tirés à des kilomètres de vous. Et donc, on développe des réflexes de gibier, des réflexes d'hypersensibilité au bruit. Essayer de décoder quel projectile arrive, combien de temps on a pour sauver sa peau, etc. Donc ça, c'est un tout autre savoir de combattant. Et on est très peu dans la virilité. Donc là, il y a déjà un fossé entre ce que l'arrière raconte de vous et ce que vous vivez vraiment. Et c'est pas du tout... Donc voilà, on est très loin de la virilité. Et c'est aussi ça qui m'intéressait. C'était questionner cette pression qu'on met sur les garçons. De virilité et comment qu'est-ce que la guerre en fait de ça et qu'est-ce qu'ils en font après eux, en eux. Donc j'ai travaillé complètement autrement et j'ai travaillé avec beaucoup de textes de soldats anglais parce que les soldats anglais sont venus faire la guerre dans un autre pays, donc ils amènent dans cette guerre une dimension vraiment universelle. Et je voulais pas trop l'ancrer. C'est la guerre de 14, j'ai essayé de pas être anachronique, mais je voulais pas qu'elle soit trop ancrée dans un parler de la guerre des soldats français. Il n'y a pas le jargon des poilus dans mon roman. J'ai cherché vraiment un langage plus universel et d'une certaine manière plus moderne de la guerre.
Bien que vous vous placiez quand même dans cette continuité.
Voilà. Oui.
Et qu'on le voit aussi à travers, notamment, je pense, à travers les yeux du jeune Bleuet.
Oui.
Qui est aussi un moment des temps forts dans votre roman. Il n'y a pas que Théodore qui est taiseux, il y a aussi d'autres personnages, comme Rosalie ou encore Isor, qui ne sont pas à même donc, de se pencher sur ce qu'ils ressentent. Paradoxalement, ces deux femmes vont donc révéler leur humanité, notamment en contact de ces soldats blessés, notamment que ce soit dans l'arrivée, le tri des soldats, comme elles le disent, les soins, les premiers soins, et j'en passe, parce qu'elles ont aussi vu des choses absolument horribles. Est-ce que c'est dans les grands moments de souffrance que notre humanité finalement se révèle le plus?
Oui, je pense qu'en tout cas, c'est dans l'inconfort, le danger, les moments où on est dans un désarroi aussi. En fait, tout ce qui nous sort de notre expérience de vie habituelle. Et là, c'est le cas pour Rosalie, parce que pour elle, arriver dans cet hôpital, c'est faire l'expérience de la réalité de la guerre, ni plus ni moins, alors qu'on l'a bercée de propagande. Mmh. Donc tout à coup, c'est la réalité de ce que ça fait un corps, la guerre, et c'est pas beau à voir. Et ça fait peur. Et en plus, elle a peur de ne pas être à la hauteur de ça, puisque ces corps qui sont en charpie attendent d'elle qu'elle soit active et qu'elle les aide. Donc elle n'a pas le temps de atermoyer, il faut qu'elle y aille, quoi. Et bien sûr, c'est pas facile à faire, mais ça lui apprend aussi ce que c'est, par exemple, qu'un corps d'homme, qu'on lui a pas du tout appris. Et même, on lui a... En fait, elle n'est pas censée approcher un corps d'homme, normalement, jusqu'à sa nuit de noces. Et donc là, c'est une manière de découvrir comment sont faits les hommes. Mais alors, bon, là, c'est des corps qui souffrent. Mais du coup, elle n'est pas dans la relation aussi un peu de cette époque très codifiée où une femme est un peu une proie, qu'on conquiert et qu'on soumet, et elle sera une épouse. Et en gros, on ne se pose pas tellement la question de sa sexualité, encore moins du plaisir. On lui apprend que ce n'est pas ce qu'il faut chercher dans la vie, d'ailleurs. Là, elle est dans un rôle autre où elle peut appréhender des corps masculins, mais en ayant un rôle actif et un rôle soignant, un rôle qui est complètement hors la sexualité. Et c'est vrai que pour elle, ça, c'est très initiatique, pour le coup.
Et cette vision, justement, du corps qui doit être interdit entre elle et un homme, on le voit notamment à travers certaines réflexions de Marthe, qui lui dit plusieurs fois qu'elle finira par finir à avoir une grossesse, et c'est tout. Et même aussi par sa mère, qui écrit plusieurs fois à Achille, et qui, donc son frère, et qui lui dit « il faut qu'on trouve quelqu'un pour ta sœur ».
Ah bah, pour Rosalie, c'est pas compliqué. S'il n'y a pas hors cette histoire, son destin, c'est d'être une épouse et une mère. C'est son seul destin. Personne ne lui a appris un métier, personne n'envisage qu'elle puisse faire des études dans son milieu, c'est vraiment... Donc, le grand inconnu, c'est précisément son désir. Même en général, pas juste sexuel, c'est son désir dans la vie. Tout le monde s'en fout de son désir. Donc là, quand elle décide de cacher cet homme, elle le fait au départ par charité, elle pense qu'il ne s'agit que de ça. Bon, il y a aussi certainement une révolte contre sa mère, parce que c'est un homme que sa mère a quand même mis à la porte quelques heures plus tôt. Mais c'est une porte dérobée par laquelle elle peut découvrir sa liberté, sa volonté et son désir. Et ça, pour elle, ce pas de côté, il est vraiment vital à ce moment-là. C'est une grande chance dans sa vie aussi.
Votre roman, je trouve que c'est l'histoire d'une fuite en avant vers le mieux. C'est ce qu'aspire en tout cas chacun des personnages, que ce soit Isor, Théodore, Rosalie ou encore Marthe, la bonne, bien qu'elle soit quand même pleine de mauvaise volonté. Cette fuite en avant est-elle aussi due à la guerre, que par cette guerre on cherche forcément à changer sa vie? Ou est-ce que c'est déjà pour vous intimement lié au désir le plus profond de vos personnages?
Je pense que la guerre, elle joue beaucoup. On voit bien comment elle les fait bouger de leur trajectoire. Que Isor, sans la guerre, n'aurait pas découvert qu'elle était capable de diriger un domaine, qu'elle adorait ça, qu'elle était capable d'être une femme d'affaires, qu'elle avait ce goût, finalement, dans la vie, et qu'elle adorait. Pour elle, c'est aussi une transgression, c'est aussi une forme de liberté. S'approprier un rôle d'homme, aimer ça, diriger, et ça engendre des tas de problèmes après dans son couple, forcément. Rosalie, ben oui, elle est plus riche de ce qu'elle découvre sur elle-même dans ce livre. Et puis, Marthe, au départ, elle n'a pratiquement aucune carte dans son jeu. C'est un personnage dont le destin est d'être asservi. Mmh. Et c'est tout. Et donc, elle a cette espèce de niaque des gens qui n'ont pas, qui sont prêts à saisir la moindre chance de s'en sortir. Et donc, la guerre lui offre des opportunités qu'elle n'avait pas non plus. Sans ça, elle n'aurait peut-être pas eu la force d'aller chercher une autre vie. Donc oui, la guerre est un catalyseur pour tous ces personnages. Quant à Théodore, c'est plutôt renoncer à quelque chose pour lui. Parce que c'est renoncer à sa carrière. Parce que une fois qu'il a déserté, même si c'est un choix de la vie, hein, il a choisi la vie aussi, la survie, eh bien, il doit renoncer à tout ce qui a été sa vie, tout ce qu'il a construit. Et tout ce qui a été sa vie et son but jusqu'à la guerre. Donc, ce n'est pas évident. Qu'est-ce qui reste une fois qu'on a renoncé à son ambition, à sa carrière? Qu'est-ce qui reste de vous une fois qu'on n'est plus personne? Puisque c'est ce qu'il ressent au début de ce livre. Je ne suis plus personne.
Et vous le développez justement aussi dans votre roman. Ce pourquoi un déserteur ne peut pas forcément faire carrière ensuite. Page 140. Un dialogue saisissant entre Rosalie et son frère Achille dit ceci. « Maman dit que ce sont des lâches, répond-elle, observant une pie raser l'eau du bassin pour s'y désaltérer. Notre mère ne connaît rien à la guerre, murmure son frère. Sinon, elle se tairait. » Bien qu'on apprenne à connaître Théodore, qu'est-ce qui vous inspire le personnage du déserteur ?
Moi, je pense que le déserteur est un personnage qu'on n'a pas envie d'écouter, quelle que soit l'époque. On m'a dit l'autre jour, oui, mais votre déserteur de la Grande Guerre, aujourd'hui, on le verrait comme un héros. Ça, je ne suis pas sûre que c'est vrai pour tout le monde, déjà. Et j'ai répondu, oui, mais si c'était la Deuxième Guerre, comment vous le verriez, mon déserteur ? Et si c'est l'Ukraine ? Il y a eu des tas de déserteurs, là, en Ukraine, il y en a encore. Il y en a en Russie. En fait, un déserteur, il a un point de vue sur la guerre qu'on n'a pas envie d'entendre, puisque les guerres reposent sur une forme de consentement collectif à la guerre. Moi, je trouve que c'est intéressant d'interroger ce consentement. D'ailleurs, pas seulement à la guerre, mais aussi, là, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une jeune femme là, qui est à Polytechnique et qui appelle à déserter la société, en fait, en disant sur le mode, la société nous amène dans le mur, les dirigeants de ce monde, les gouvernements aujourd'hui prennent des décisions qui vont à l'envers de la marche des choses pour le climat, qui nous entraînent vers l'extrême droite, qui c'est ça. Donc tout ça, désertons tout ça, ne soyons plus partis.
Ce serait faire un pas de côté. Système.
Voilà, un pas de côté. Je crois que, de ce point de vue-là, un déserteur est très intéressant par ce qu'il propose. Après, il y a une désertion par déserteur. Moi, j'ai imaginé celle du mien à partir d'une phrase dans un livre d'historien qui disait qu'un homme avait déserté le lendemain du jour où il avait reçu la croix de guerre. Je trouvais ça intéressant parce qu'évidemment, un déserteur, pour tout le monde, ça va être un lâche. Et donc, si ce déserteur n'est pas un lâche au sens où on l'entend, qu'est-ce que ça vient nous raconter du courage? Est-ce que c'est une forme de courage de déserter? Qu'est-ce que ça dit sur la guerre? Moi, je suis étonnée de voir qu'aujourd'hui, encore, il y a un tel consentement collectif aux guerres. Évidemment, les guerres sont présentées comme existentielles. Quand vous êtes ukrainien, votre pays est envahi par la Russie, on est à leur place, je pense qu'on y va. Et d'ailleurs, les hommes et les femmes y vont, hein, si là. Et en même temps, pourquoi et vous allez me dire que la Russie, on ne leur laisse pas beaucoup le choix. Mais il y en a quand même qui choisissent d'y aller, beaucoup. Et puis la société justifie la guerre. Et or, maintenant, on ne peut plus se raconter que la guerre, c'est juste une super aventure masculine. On sait que c'est quelque chose qui abîme tous ceux qui la font. Abîme à jamais tous ceux qui la font, abîme des pays entiers, etc. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant de questionner ce consentement aux guerres. Si aujourd'hui, tout le monde disait à tous les fous dangereux là, qui gouvernent certains pays et qui sont des vats en guerre, vas-y tout seul, mener ta guerre. Alors, ce serait intéressant d'imaginer qu'est-ce qui se passerait, non ? Mais aujourd'hui, on voit bien que on n'est pas prêt à faire ça.
Et encore un peu de travail à faire sur la société.
Un peu de travail, ouais.
J'aime conclure ces entretiens par une ouverture vers d'autres horizons de lecture. Quel est le livre que vous lisez actuellement ?
Alors, j'en lis plusieurs actuellement. Alors, j'en lis plusieurs, c'est compliqué. Alors justement, j'ai commencé « Le ciel est immense » de Ferhat Alani. Et puis après, j'ai des lectures de boulot. Alors, je vais les garder pour moi pour l'instant, pour garder le secret de... Je suis en train de travailler sur... Je commence à travailler sur
le prochain roman.
Ouais.
Ah, d'accord.
Bon. Qui sera contemporain. Voilà.
Très bien.
Et qui parlera... Ce que je peux dire, c'est qu'il parlera de notre rapport au sacré et à l'irrationnel.
Rendez-vous alors pour le prochain entretien ?
Voilà, avec grand plaisir.
En attendant votre prochain roman, il y a déjà celui-ci, le tout nouveau, le tout dernier, qui s'appelle L'Homme sous l'orage, publié aux éditions de l'Iconoclaste dans cette rentrée littéraire d'automne. Merci infiniment, Gaëlle Noir.
Merci à vous.
Très heureux d'avoir pu de nouveau partager cette antenne avec vous. Ce même entretien que nous avons fait aujourd'hui est à retrouver sous forme de capsule auditive en balado-diffusion à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite d'avoir de belles lectures.